Chapitre 12. La chance de leur vie. Une grande estrade avait été installée devant le dôme de la chapelle Sainte-Ursule, sur la jolie place bordée d'arbres de la Sorbonne. L'échafaudage dominait de plus de 3 mètres la trentaine de candidats qui se tenaient debout, sous la pluie, attendant qu'Isalis, perchée sur la plateforme, se décide à parler. La ministre du temps passé, déléguée à l'instruction et la promotion, n'avait pourtant pas l'air pressée. L'averse, elle s'en moquait. Soutim, seul autre ado à se tenir debout sur l'estrade, tendait un parapluie au-dessus d'elle, à bout de bras. La ministre prit encore un long moment pour observer les visages luisants des candidats fouettés par les gouttes, comme si elle prenait un plaisir sadique à les voir clapoter dans les flaques, serrer leurs cartables de cuir entre leurs bras ou, pour ceux qui n'en avaient pas, tenter de protéger sous leurs habits mal imperméabilisés leurs stylos et leurs feuilles de papier.
« Bienvenue à tous !» finit-elle par déclamer. « Je sais tout ce que représente pour vous ce certificat d'aptitude à la promotion et l'éducation. Ceux qui réussiront ce CAPE ne seront plus de simples primitifs, mais des promus. Je sais que vous êtes venus de loin parfois, que les plus motivés d'entre vous ont révisé toute l'année, et qu'à l'issue de cette journée, il y aura beaucoup de déçus et peu d'élus. »
La déléguée à l'instruction et la promotion s'agitait de plus en plus sur l'estrade, au point que Soutim peinait à maintenir le parapluie au-dessus de sa tête.
« Cette sélection est un concours d'excellence. Dans le monde nouveau, il n'y a pas de place pour les médiocres, les fainéants, les faibles et les lents. Nous ne retiendrons que les meilleurs, ceux qui seront chargés des plus hautes responsabilités. Il est encore temps pour vous d'abandonner, de ne pas nous faire perdre notre temps, de ne pas vous ridiculiser. Mais si vous souhaitez vraiment postuler à ces fonctions prestigieuses, alors écoutez-moi. »
Aucun des 30 candidats ne bougea. Tous, malgré la pluie, restaient attentifs, concentrés, même si la plupart paraissaient dans un état de nervosité extrême. Une cajoleuse se rongeait les ongles. Un rumineur et un empesteur, en dépit des gouttes qui tombaient, avaient ouvert des manuels et continuaient de réviser.
« Ils sont sacrément motivés, non ?»
glissa Sabine dans l'oreille de Valère. La lolligirl et l'historien s'étaient installés à l'autre extrémité de la place, à la terrasse d'un ancien bar, l'écritoire, dont Valère avait réussi à débloquer l'auvent. Assis devant une table ronde, il têtait 2 pailles enfoncées dans 2 grandes gourdes de menthe magique. Sabine examina plus longuement les candidats, à la fois amusée et désolée de les voir ainsi attendre sous la pluie.
« Quel délire !» fit Sabine. « Les pauvres. Bosser comme des malades depuis des mois, juste dans l'espoir qu'un ou deux d'entre eux obtiennent leur CAPE et deviennent des promus avec un grand P, et aient le privilège avec un grand P aussi de suivre les cours débiles de Mama Luna. »
Il était très rare que Valère contredise Sabine, même quand il n'était pas d'accord avec elle, ce qui était assez fréquent. Mais cette fois, il ne put se retenir. Peut-être s'enhardissait-il parce que Akane était loin et que, depuis quelques semaines, il passait beaucoup de temps en tête-à-tête avec la lolligirl.
C'est facile de te moquer d'eux. Tu as grandi au château. Tu as eu le droit de suivre des cours depuis que tu es né. Tu peux te permettre de jouer les cancres. Il ne peut rien t'arriver. Mais pour ces ados, tu sais ce que ça représente, ce concours? C'est la chance de leur vie. Je suis certain que tous ces primitifs,
s'abitiqua,
depuis qu'ils sont petits, se sentent à part dans leur tribu. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont, ils rêvent de quelque chose de plus grand. Tu imagines, quand tu as toujours vécu au bord d'un marais infesté de moustiques ou dans une étable entourée de chèvres, l'importance de cet examen ?
Sabine sucetait sa paille, rêveuse.
Oui, j'imagine. C'est l'une des plus belles arnaques qu'Ogénor et toute sa clique ont jamais inventées, et pourtant ils sont doués.
Sur l'estrade, Soutim, stoïque, continuait de tenir son parapluie au-dessus de l'impeccable chignon d'Isalis. La ministre commençait à évoquer les modalités pratiques.
Comme vous le savez, j'espère, l'examen se déroulera en 2 temps. Tout d'abord, vous devrez répondre au questionnaire de Marie-Lune. Comme nul ne l'ignore, il s'agit d'un test de culture générale, destiné à faire un premier tri. Ceux qui le réussiront passeront à l'étape suivante et ils pourront choisir l'option dans laquelle ils souhaitent postuler, c'est-à-dire la promotion des soldats, des savants ou des singes.
Un premier brouhaha se fit entendre dans les rangs des candidats. Il n'était pas difficile de deviner que les plus forts souhaitaient devenir soldats, notamment ce grand empesteur à la peau aussi pâle qu'une pâte de fromage et aux cheveux aussi blancs qu'une barbichette de chèvre. D'autres, aux tenues excentriques, visaient sans doute la promotion des singes. Les derniers, le nez penché dans leur manuel pour réviser jusqu'à la dernière seconde, formaient les effectifs majoritaires des postulants savants. Sabi, de la terrasse, s'amusait à les compter. Elle trinqua en cognant sa gourde de speed verte contre celle de Valère.
« À la santé des candidats! Tu sais bien que tout est truqué. Le fameux questionnaire de Marie-Lune, c'est pour s'assurer que les candidats pensent bien comme il faut, respectent le temps passé, la supériorité de nos valeurs, et patati et patata. Même ceux qui n'ont jamais entendu parler de Mama Luna doivent écrire noir sur blanc qu'elle est leur maman, et tant pis si elle les a laissés crever après le passage du nuage. » Et ensuite, pour les plus obéissants, on passe aux options pour les trois pavillons. C'est Isalie, c'est sa bande qui corrige les copies. Je suis certaine que pour les soldats, ils choisissent les plus costauds qui ont un noyau de Mirabelle à la place du cerveau. Pour les singes, uniquement les crâneurs snobs qui adorent tout ce que Isalie adore. Et pour les savants, tous ceux qui n'oseront jamais affirmer que 2 + 2 ne font pas 4.
2 + 2, eut le courage de glisser Valère.
Ça fera toujours 4, Sabi. Il doit y avoir aujourd'hui, au château, une 20aine de promus titulaires du CAPE, issus des 2 sélections précédentes. Si tu leur retires cet espoir, qu'est-ce qu'il reste à ces ces ethnies nouvelles? La liberté. La liberté de rester ce qu'ils sont, et de ne pas se comporter en mouton.
Soutim avait changé de main. Son bras droit paraissait ankylosé d'être resté si longtemps levé, mais il peinait à maintenir le gauche en l'air sans trembler. Isalis lui jetait des yeux courroucés dès qu'une goutte échappant au parapluie tombait sur ses lunettes dorées ou sa coiffure impeccablement laquée.
« Un peu de patience !»
demanda la ministre en détachant avec lenteur chaque syllabe comme si elle parlait à des enfants de 6 ans.
« Mes collaboratrices vont apporter les copies dans quelques minutes. » Mais je tiens auparavant à être le plus clair possible. Une fois que vous serez entré dans l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, où se tiendra l'examen, tout bavardage, non-respect du règlement, ou, pire encore, tentative de triche sera puni. Les primitifs pris en flagrant délit seront immédiatement conduits à la prison de la conciergerie.
Le regard d'Isalis traversa la place de la Sorbonne jusqu'au grand boulevard bordé de marronniers d'où Olympe et Minerva venaient de surgir, encadrés par 4 gardes civils, chacun portant une impressionnante pile de copies. Elles grimpèrent prestement pour se protéger sous le toit d'une petite estrade de bambou, élevée juste devant la terrasse où Sabi et Valère étaient installés. Les 4 gardes restèrent au pied de la tonnelle surélevée, abrités de la pluie par leurs cagoules de laine imperméabilisées, et leur tunique couleur sable doré boutonnée jusqu'au cou et descendant jusqu'aux chevilles.
« Vous voulez boire un coup de speed verte, les amis ?»
cria soudain Sabi. La loligirl était assise 5 mètres derrière les gardes. Il l'entendait forcément parler, mais demeurait imperturbable.
« Ah oui, c'est vrai, faudrait retirer vos cagoules pour ça, et vous n'avez pas le droit !»
Les dos des 4 gardes restaient toujours aussi droits.
On se connaît? C'est quoi vos noms? Oui, je sais, c'est écrit sur votre tunique. Attendez, toi, tu t'appelles 11, et toi, 27, toi, 5, et toi, le gros balèze, 16. Mais vous n'êtes pas qu'un numéro, non?
La loligirl commençait à se lever, hésitant entre les chatouiller pour les décoincer, leur pincer le menton pour voir qui le premier rirait, ou directement arracher leur cagoule pour les identifier. Valère la retint par le bras.
Laisse tomber, Sabi. Tu vas leur attirer des ennuis. Il suffit que l'un des 4 aille rapporter à Mordelia que 11 ou 16 a flanché et il sera puni. Elle connaît par cœur le nom et le matricule de chaque garde.
Et elle en a cloné combien comme ça?
À la date d'aujourd'hui,
29 gardes ont été mobilisés au moins une fois. Mais chaque jour, de nouveaux sont choisis pour une mission et personne à part Mordelia ne sait qui ils sont.
Elle ne planque pas une liste quelque part?
Non, elle fait uniquement confiance à sa mémoire.
Waouh! Impressionnante, cette cinglée!
Sabi regarda fixement Valère.
Si ça se trouve, ma fraise des bois, toi aussi t'as déjà ton numéro et comme tout le monde, tu ne peux rien dire.
Et pourquoi tu n'en aurais pas un aussi, Sabi?
La loliger le fusilla l'historien du regard.
Tu crois vraiment que cette sorcière pourrait me faire mettre une cagoule sur la tête et me faire taire?
Valère se concentra sur sa gourde de speed verte et fit immédiatement machine arrière.
Non, non, évidemment.
Et toi non plus, je te rassure, mon Valou. Avec ta carrure de crevette, même avec une cagoule pour dissimuler ton acné, tout le monde te reconnaîtrait.
L'historien était habitué depuis des années aux vacheries de Sabi. Il avait même fini par les prendre pour des marques d'affection. Sans doute était-ce ce qu'il aimait chez cette fille, son impertinence. Peut-être qu'un jour, elle se lasserait d'Akan, son géant sans conversation, et qu'elle le préférerait, lui. Il jeta un œil méfiant en direction des quatre gardes, puis vers Olympe et Minerva qui se tenaient toujours sur l'estrade de bambou en serrant leur précieuse copie contre leur poitrine, et baissa la voix.
« Tu veux que je te raconte un truc ?»
Les yeux de Sabi pétillèrent.
« Il y a une semaine, » chuchota l'historien, « un garde civil, le numéro 9, a profité d'un contrôle de routine pour fouiller le sac de Tiphaine et mettre discrètement dans sa poche un collier d'améthyste. Hop, ni vu ni reconnu, je porte une cagoule. Sauf que le garde, avec qui il faisait équipe, 13 à ce qu'on raconte, l'a dénoncé. Tiphaine a confirmé, et résultat, Mordelia a révélé publiquement que le matricule 9 était Pablo, un des peintres de l'aile des singes. Il a été illico enfermé à la conciergerie. Par contre, personne ne sait qui est 13. Peut-être son meilleur copain. On sait juste qu'il a touché une prime de 15 lunes pour son comportement loyal.
Sabi siffla entre ses dents.
Pas mal du tout le plan de Mordelia. Tout le monde va finir par se méfier de tout le monde.
T'as tout compris.
Tant qu'on reste anonyme, on peut faire les pires saloperies, comme dénoncer ses voisins ou ses amis, et elle appellera ça simplement le contrôle des citoyens par les autres citoyens. Crois-moi, c'est autrement plus dangereux que c'est promu.
Sabi ne s'avouait pas vaincue.
La garde cagoulée, c'est le joujou de Mordelia. Les promus, c'est le joujou de Génor et de ses deux groupies, Isalis et Vanille.
Un jouet sacrément dangereux,
nuança l'historien.
Le grand cerf laisse les promus accéder à la connaissance. Tu crois vraiment que les intellectuels sont si faciles à manipuler?
Sabi regarda Valère droit dans les yeux, attrapa sa gourde de speed verte, la vida en suçant sa paille et éclata de rire.
Oh oui!
Place de la Sorbonne, Soutim tenait maintenant son parapluie à deux mains. Ses longs cheveux noirs dégoulinaient, mais Isalis, au sec, n'avait toujours pas l'air pressée. Elle attendit encore un bon moment et quand enfin la cloche de la chapelle Saint-Ursule sonna 10 heures du matin, elle s'avança pour parler. Elle gratifia même les candidats d'un sourire inédit.
« La sélection des promus de l'été peut commencer. Bonne chance à tous. Vous irez, un par un, derrière vous, chercher vos feuilles d'examen. »
Sur l'estrade de bambou de l'autre côté de la place, Olympe et Minerva attendaient les candidats de pied ferme, questionnaires de Marie-Lune et énoncés des trois options à la main. Les quatre gardes civils surveillaient le défilé. Personne ne semblait avoir remarqué les deux observateurs attablés derrière l'estrade cachés par les piliers. Sabi fixait l'estrade avec attention. Elle ne paraissait pas très stable. L'échafaudage de bambou avait dû être monté par des prémats. Ils étaient en général assez débrouillards pour ce genre de bricolage. Ils avaient appris à assembler des poutres, des planches, avec des cordes de chanvre et des nœuds de chantier, mais ne possédaient pas assez de force pour bien les serrer.
« J'ai envie de faire une bêtise, »
murmura Sabi à l'oreille de Valère.
« Oublie, On se lève et on file. Alix et Zizo nous attendent sous la pyramide brisée.
La pyramide brisée, c'est la dernière chose que j'ai envie de revoir.
Il croit que le fameux laboratoire de Pierre-Sol et Marie-Lune pourrait se trouver là-bas. Et toi?
Moi? Je ne sais pas. Je repasse les mots dans ma tête depuis que Lupa nous en a parlé. L'empire de la mort, au plus profond de la terre et au plus haut de la lumière. J'ai l'impression que la solution est évidente, toute proche, mais je n'arrive pas à l'attraper.
Moi, si.
Sabi fit semblant de capturer une mouche invisible. Elle garda le poing fermé quelques instants.
« Et voilà !»
chuchota-t-elle.
« Je l'ai.
Une idée toute mignonne, juste un peu... amusante. »«
Non, Sabi. »«
Regarde, les nœuds sous l'estrade. Là, là et là.
Il suffirait de tirer sur la corde et... »
Tout s'écroulerait.
Les poutres, le plancher, les deux dindes assises avec leurs paquets de copies.
Elle se levait déjà. Les gardes lui tournaient le dos et la pluie sur les toits de toile empêchait d'entendre quoi que ce soit. La loligueur le s'approcha à pas de loup de l'arrière de l'estrade. Valère n'eut pas d'autre choix que de la suivre. Il tenta une dernière fois de la raisonner.
« Sabi, tu vas faire une sacrée idiotie. Ce sont tous de bons élèves, sérieux. » Motivé.
Justement, le nouveau monde appartient aux cancres, pas à ces futurs petits caniches trop bien dressés.
D'un geste sec et déterminé, elle tira sur le premier nœud à sa portée. La corde lui resta dans les mains et les poutres de bambou immédiatement s'écartèrent, d'abord les plus basses qui supportaient tout le poids de la structure, puis celles de la plateforme supérieure. L'estrade pencha quelques instants, le temps que Sabi attrape la main de Valère et se recule, puis d'un coup tout s'effondra. La plateforme n'était pas très haute, à peine plus d'un mètre, mais assez pour que les poutres et les planches, en se disloquant, entraînent dans leur chute Olympe et Minerva. Balayées comme des quilles, les deux filles singes lâchèrent leurs copies. Les feuilles s'envolèrent dans le ciel gris avant de lourdement retomber dans les flaques. En voulant les ramasser, les quatre gardes civils ne firent que les piétiner davantage. Les questionnaires de Marie-Lune gisaient dans l'eau grise, tels des feuilles de choux à peine lues et déjà abandonnées. Des candidats se précipitèrent pour sauver ce qui pouvait encore l'être, c'est-à-dire uniquement des bouillies de papier. Olympe et Minerva se débattaient entre les poutres de bambou de ce mikado géant, s'insultant mutuellement chaque fois que l'une écrasait le pied ou la main de l'autre. À l'autre bout de la place de la Sorbonne, Isalis avait arraché le parapluie des mains d'un soutime ahuri et courait droit devant elle en hurlant «
« Ne touchez à rien, ne touchez à rien, ou je vous envoie tous à la conciergerie !»«
Viens, viens vite !»
fit Sabi en tirant sur la main de Valère. Ils renversèrent quelques chaises en terrasse et s'enfuirent. Sabi riait aux éclats.
« La tête de Minerva et la colère d'Isalis. Allez, ma fraise des bois, c'est pour rire. Ils repasseront leur CAPE dans moins de 2 mois. Suis-moi !»
La loligirl bifurqua brusquement dans la première rue de traverse.
« Ils sont trop occupés pour nous courir après !»
assura-t-elle.
« Avant de réparer leur tribune, ils devront demander le mode d'emploi au Préma. Les gardes ne nous suivront pas jusqu'à... »
Sabi s'arrêta de parler. Deux gardes civils sortis de nulle part barraient l'étroite rue où elle s'était engagée. Elle se retourna à la vitesse de l'éclair.
« Par là ! Vite, Valère !»
Elle tenta de s'engager dans une ruelle parallèle, avant de se rendre compte que deux autres gardes civils la bloquaient également. Pas le choix. Ils devaient retourner sur la place de la Sorbonne. Toutes les autres issues étaient coupées. Elle entraîna Valère. L'historien peinait à la suivre, de plus en plus essoufflé.
« Tiens bon, Valou ! Ce serait trop bête de se faire pincer !»
Ils ne purent pas faire un pas supplémentaire. Cette fois, quatre gardes leur barraient la route. Ils étaient désormais 8, muets, tous cagoulés. Le cercle se refermait autour des deux fugitifs. Valère serra la main de Sabi. Il venait de comprendre qu'on leur avait tendu un piège. Une estrade trop branlante, un nœud trop lâche, une blague trop tentante.
« Quelle gourde !»
pensa Sabi en prenant soudain conscience de la gravité de la situation.
« Ils ont profité qu'Akane soit loin, beaucoup trop loin pour me protéger.
Les gardes se rapprochaient.
« Combien vous ont-ils payé ?» hurla la Lolly Girl en fixant la bourse garnie accrochée à la ceinture de leur tunique. Les 8 cagoulés continuèrent d'avancer, déterminés et muets.
« Ayez au moins le courage de me répondre !»
Un premier garde civil se jeta sur elle. Sa carrure athlétique pouvait être celle de n'importe quel ado un peu sportif du tipi. Un peu plus loin, les candidats observaient la scène, tout aussi hébétés par l'annulation du concours, les menaces d'Isalis que par l'apparition massive des gardes civils et les cris de la Lolly Girl. Valère s'était recroquevillé, main levée, en signe de reddition.
« Prévenez Alix !»
leur lança le plus fort possible Sabi.
« Prévenez Zizo ! Prévenez Lunella ! Prévenez !»
Le garde tenta de la bâillonner avec sa paume. Elle le mordit au sang et s'adressa aux 3 autres cagoulés qui tentaient de l'immobiliser.
« On se connaît, non ? Depuis qu'on est né ! Alors retirez vos masques de carnaval, bande de lâches !»
En guise de réponse, les 2 premiers gardes lui saisirent les bras, alors que le 3e lui enfonçait une cagoule de laine sombre sur la tête. Son dernier cri s'étouffa. Paris disparut d'un coup dans le noir, alors qu'une douleur intense brisait les reins de la Lolly Girl et la forçait à s'agenouiller dans les flaques de copies détrempées.